Bienvenue dans le Proof of Cast, le podcast francophone qui vous explique, qui vous raconte et qui vous démystifie les crypto-monnaies, les blockchains et les plateformes décentralisées. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 11 du Proof of Cast, le podcast francophone qui vous explique, qui vous raconte et qui vous démystifie les crypto-monnaies, la blockchain et les plateformes décentralisées. C'est Sébastien Arbogast qui vous parle et je suis en direct avec, et oui, le grand, l'inénarrable Plume. Bonjour Plume.
Salut Seb.
Heureux de te retrouver hein, après cette rentrée, ce début de saison 2 du Proof of Cast. Et donc, cette fois-ci, tu vas pouvoir nous gratifier d'un de ces éditos dont tu as le secret.
Ah oui, et j'étais impatient pendant toutes les vacances de pouvoir enfin faire le guignol avec toi devant un micro.
Parfait, donc on entendra ton édito et puis ensuite on partira sur l'actualité. On va parler de pas mal de blockchains différentes cette semaine. On va parler de Tezos, on va parler d'EOS, de Bitcoin, d'Ethereum. Bref, on va couvrir toute l'actualité de ces deux dernières semaines. Mais avant ça, effectivement, donc pas de questions cette semaine déjà. Donc n'oubliez pas, hein, si vous avez des questions, des remarques par rapport au contenu de ce podcast et des choses que vous ne comprenez pas ou tout simplement des sujets que vous voudriez qu'on aborde, vous pouvez poster vos questions sur le blog, sur proofofcast.com ou sur notre compte Twitter, sur proofofcast donc, et sur notre page Facebook. N'hésitez pas, c'est aussi votre podcast. Donc n'hésitez pas à partager vos interrogations. Sur ce, de quoi vas-tu nous parler cette semaine dans ton édito, Monsieur Plume ?
Eh bien, chers crypto-auditeurs de tout sexe et de tout genre, bienvenue dans Proof of Cast, le podcast de la crypto. Alors que le prix du Bitcoin stagne dans les 36e dessous, rendez-vous compte, il n'est qu'à 150% du prix qu'il avait l'année passée, que les hodlers se transforment en biddlers pour ne plus avoir l'impression de faire de nouveau partie de cette sombre populace de pauvres malodorants obligés de travailler pour s'acheter un sandwich, un déodorant Aldi et une Lamborghini. Un espoir fait vivre et renaître. Un mot rallie et représente l'étoile dans la nuit, l'oasis dans le désert, le panneau toilette à 5 km sur l'autoroute, le hamburger dans une garden party vegan. Ce mot, c'est blockchain. Alors, blockchain par-ci, blockchain par-là, blockchain à toutes les sauces, tralali, tralala. Les conférences blockchain se succèdent et se ressemblent à mi-chemin entre la foire aux bestiaux et le bal populaire. C'est bien simple. Trouvez juste un titre qui comporte block ou chain, mais pas les deux, hein, soyons subtils. Trouvez un hangar désaffecté ou un grand hôtel. Faites faire l'affiche par un graphiste héroïnomane désœuvré. Envoyez quelques mails pour obtenir des conférenciers bénévoles entourés de politiciens locaux et des vendeurs de Tupperware. Oui, alors j'appelle Tupperware les logiciels qui ont des vendeurs qui viennent dans les salons pour tenter de vendre leur camelot. Vous comprenez la blague là ? Il y a freeware, payware, ransomware, abreuware et maintenant il y a les Tupperware. Alors les Tupperware sont donc ces logiciels qu'aucun utilisateur d'ordinateur sensé n'utiliserait jamais, n'installerait jamais sur sa machine, mais qui font le bonheur des chefs de département IT, qui les payent beaucoup plus cher, avec la satisfaction que eux n'auront jamais à les utiliser, et que les autres employés de l'entreprise souffriront, pesteront et se rendront à l'évidence que l'informatique, c'est vraiment une science occulte réservée à une petite élite. Je pense qu'il doit y avoir une forme de cursus universitaire alternatif pour la création de ce genre de Tupperware. On prend les designers en leur faisant faire une interface optimisée pour être éprouvante pour les nerfs, pour mener à la dépression. Les développeurs, on doit avoir des primes au nombre de bugs handicapants et le tout doit prendre plusieurs gigaoctets sur les serveurs et sur les disques durs. Le tout, évidemment, afin de garantir au département IT son petit pouvoir incontesté au sein de l'entreprise. Pour le reste de la discussion, voir la page Wikipédia consacrée à G2EE. Mais je m'égare. Nous parlions donc de la blockchain, ce mot incroyable qui fait... Ou SAP, évidemment. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Nous parlions donc de la blockchain, ce mot incroyable qui fait frissonner les futurologues comme les politiciens, ce qui, en soi, est déjà un signal d'alarme assez net. Au final, les seuls qui savent vraiment de quoi parle la blockchain sont peut-être les moins excités. Parce que, clairement, la blockchain a le potentiel de révolutionner beaucoup de choses, mais peut-être que quand on se met à discuter de l'intérêt de la blockchain dans l'industrie de la frite surgelée ou la blockchain dans l'élevage des lamas au Pérou, Mais le gouvernement n'avait pas envie de passer encore une fois pour des attardés has-been, eux qui sont devenus une entité consacrée uniquement à la problématique de creuser des trous et de les reboucher, problématique aussi appelée création d'emplois. Cette fois, se sont dit unanimement tous les gouvernements, on va être à la pointe, ouais, on va être in, alors on va faire la blockchain dans la création d'emplois. Mon bullshitomètre vient de péter. C'est con, c'était un bullshitotron 2000. C'est un super bon modèle, mais relativement sensible. Alors, mêler la blockchain et la création d'emplois, avouez, c'est un peu trop fort. Hein. On a donc les gouvernements qui payent les entreprises pour payer des travailleurs avant d'imposer les dits travailleurs, qui s'inquiètent de ne pas atteindre les 3% de croissance, qui décident que l'écologie, c'est quand même accessoire face à la croissance, qui s'écharpent pour savoir quel pays va accueillir 40 malheureux immigrés sur un bateau en provenance de pays que nous avons pillés pendant plus d'un siècle, et qui nous disent avec un grand sourire « Ouais, mais on va résoudre les problèmes. On va créer une conférence gouvernement et blockchain. » Je vais pas pouvoir le récupérer, hein. C'est vraiment trop sensible, hein, Enfin, puis quand on soulève le problème de cette pseudo-démocratie, il y a toujours un plouc qui débarque. Ouais, mais on va faire les élections sur la blockchain. Non. Mais le problème, ce sont les élections, justement. Et si on arrêtait d'élire des représentants et qu'on prenait nos propres décisions? Ah bon, j'avoue, ouais, ça sera un petit peu le bordel. Il y aura des décisions stupides qui seront prises. Il y en a certains qui vont en profiter, qui vont s'en foutre plein les foches. Ça va être un peu comme maintenant, en fait. mais justement, donc on peut changer les choses. Allez, camarades, c'est la lutte finale. Groupe pour nous. Je m'égare. Bref, la blockchain est partout. Et la preuve qu'elle est partout, c'est que c'est même devenu hype d'être anti-blockchain. Pour paraphraser Maître Starensen, un sage oriental débutant qui n'est en fait ni sage ni oriental sauf sur Slack, il suffit de remplacer le mot blockchain par une gigantesque feuille Excel distribuée sur des milliers d'ordinateurs où chaque opération prend 10 minutes et consomme le plein d'une Tesla. Dit comme ça, vous pensez vraiment que ça va avoir du succès? Mais non, imaginez. Une gigantesque feuille Excel distribuée sur des milliers d'ordinateurs où chaque opération prend 10 minutes et consomme le plein d'une Tesla dans l'industrie de la frite surgelée. Une gigantesque feuille Excel distribuée sur des milliers d'ordinateurs où chaque opération prend 10 minutes et consomme le plein d'une Tesla pour l'élevage des lamas au Pérou. Ou, oh, mieux, plus explicite. Là j'en tiens une bonne. Elle est excellente, celle-là. Madame la ministre, monsieur le député, mesdames, messieurs, je suis très heureux de vous accueillir à notre conférence. Une gigantesque feuille Excel distribuée sur des milliers d'ordinateurs où chaque opération prend 10 minutes et consomme le plein d'une Tesla pour créer des emplois. Ah merde, je viens de comprendre un truc là. En fait, pour eux, c'est une amélioration. Car si vous décrivez l'administration et le gouvernement, vous obtiendrez quoi au fond? Une gigantesque feuille Excel distribuée dans des milliers de classeurs sur les bureaux des fonctionnaires où chaque opération prend 6 mois et consomme la production d'une centrale nucléaire rien que pour chauffer les bureaux, le tout dans le but de créer des emplois. Ah ben oui, du coup c'est clair. Pour eux, la blockchain, c'est une amélioration. Ouais, on n'est pas rendu là. Ah merde.
Effectivement, c'est difficile. Là, je n'ai pas d'argument. Je dois me soumettre. Oui, c'est effectivement le danger avec tous ces buzzwords. Je précise au passage que ça ne consomme pas le plein d'une Tesla. Enfin, pas d'une Tesla entière. Enfin bref, on va pas rentrer là-dedans.
Ça dépend combien de kilomètres fait ta Tesla.
Et alors moi, ce qui m'a fait rire aussi, c'est que ce que toi tu appelles le Tupperware, dans le jargon, on appelle aussi ça le golfware, parce que généralement les contrats pour le Tupperware sont signés sur des terrains de golf, pas du tout dans des salles de réunion logiques et constructives.
Mais moi, parfois dans les salles de réunion, parce que moi je me souviens très bien d'un collègue du département IT qui allait voir une présentation d'un logiciel et au sein de l'entreprise le vendeur s'était déplacé, il allait faire sa présentation et je lui ai dit pose quand même telle et telle question, fais quand même attention parce que c'est quand même un truc de merde, je sais plus ce que c'était. Et puis à la sortie de la réunion je lui dis alors la présentation, et là le mec tout content a dit ah c'est bien hein, regarde on a même eu des bics.
Ah voilà, c'est ça le problème avec les développeurs aussi, avec les IT en général, ils peuvent être corrompus juste avec un bic. Ah là là. Bon, bref. Merci pour cet édito, Plume. Encore une fois, j'ai beaucoup ri, même si j'ai essayé de pas trop rire dans le micro pour que vous puissiez en profiter. Mais voilà, passons maintenant aux actualités, si tu le veux bien. Et comme j'ai dit, cette semaine, on va parler de pas mal de blockchain et notamment des problématiques de développement. Vous allez voir pourquoi c'est particulièrement important. Première blockchain dont on va parler cette fois-ci s'appelle Tezos. Alors, on en a déjà parlé dans les épisodes précédents. Si vous vous souvenez, Tezos, c'est cette blockchain publique, générique, donc similaire dans ses objectifs à la blockchain Ethereum, mais qui propose plusieurs améliorations structurelles assez importantes par rapport à Ethereum. Alors, je rappelle, d'abord, la mise en œuvre d'un consensus par preuve d'enjeu, proof of stake, ce que Ethereum promet de faire à terme, mais que Tezos propose de faire d'emblée, dès le lancement du réseau. Deuxième amélioration, c'est des smart contracts qui seront écrits, qui seront plus lisibles et plus formels grâce à un langage fonctionnel. Alors là, on rentre un petit peu dans les détails techniques, mais c'est une amélioration assez importante. Et surtout, le plus gros changement, c'est un système de gouvernance intégré, on appelle ça de la gouvernance on-chain, qui va permettre de définir comment les règles du jeu peuvent être modifiées par les règles du jeu elles-mêmes. C'est assez récursif, c'est complètement barré d'un point de vue mathématique, mais c'est très prometteur. Et donc cette blockchain Tezos, donc, qui est l'initiative d'un certain Arthur Brightman, a levé des fonds de manière assez importante l'année dernière, puisqu'ils ont levé à l'époque l'équivalent de 270 millions de dollars, je crois, dans une ICO. Et après ça, ils ont eu quelques petits soucis de gouvernance. Ce qui en soi est ironique hein, quand on sait les objectifs de la blockchain en question, mais voilà. Donc ils ont eu quelques petits soucis en interne avec comment les fonds allaient être alloués, comment les décisions allaient être prises par rapport au futur du protocole. Et puis finalement, tout ça s'est réglé début de cette année avec la démission de l'administrateur de la fondation Tezos et la nomination d'un nouveau board qui a permis de faire avancer les choses. À tel point qu'en juin, ils ont sorti leur réseau bêta. Donc leur première version, on va dire, publique de la blockchain Tezos, dans laquelle ils avaient promis que si tout se passait bien, bah les transactions devaient être transférées ensuite vers la blockchain de production. Et il se trouve que depuis juin, bah, tout fonctionne à peu près sans anicroche, ça, il n'y a pas eu de gros soucis. Et donc, depuis une semaine maintenant, donc depuis le 17 septembre, il a été décidé de lancer le Betanet comme le réseau principal. Et donc, ça y est, Tezos est en production. Youpi ! Ça y est ! Alors, entre-temps, évidemment, à la faveur des valorisations et du trading, les 270 millions de dollars élevés à l'époque valent aujourd'hui plus de 800 millions de dollars. Donc, on approche du milliard tout doucement en valorisation. Tout ça est virtuel, hein, évidemment, hein, c'est le jeu du trading, mais voilà, c'est quand même important de le noter. Et donc, le réseau officiel est lancé. Alors, Ne vous excitez pas trop non plus, on n'a pas encore beaucoup progressé en termes d'outils d'interface graphique pour rendre le truc un peu facile à installer et à utiliser. On est encore sur des logiciels qu'il faut compiler à partir du code source, qu'il faut exécuter en ligne de commande, c'est pas à la portée du premier venu. Mais voilà, en tout cas, ils ont lancé le financement aussi de certains projets qui vont justement développer ces interfaces graphiques. Donc, il y a des bourses et des subventions, des subsides qui sont disponibles pour les développeurs qui voudraient aider à faire grandir ce réseau. Donc, si ça vous intéresse, si vous êtes développeur et que vous voulez participer au développement de Tezos, eh ben, vous êtes plus que les bienvenus et il y a du financement pour ça. Et pour rendre tout ça, évidemment, plus accessible au plus grand monde. Donc, voilà. Tezos est sur la bonne voie, avance plus vite que ce qu'on pensait, et à voir maintenant dans quelle direction ça va se rendre.
C'est quand même presque un 800 millions, c'est quand même...
C'est hallucinant, hein, c'est fou. Mais bon, on va voir justement à travers les déboires et les aventures des autres blockchains que c'est pas des financements qui sont complètement déconnants quand on voit les enjeux que ça représente et la complexité surtout qu'il y a derrière en termes de recherche et développement. On n'est pas juste sur, entre guillemets, du petit développement. Quoi.
Alors, c'est... Non, ce qui est clair, mais ce que je trouve hallucinant, c'est que tout reste à faire. Et donc, vraiment un énorme pari, c'est acheter un ticket de loto à 800 millions, mais les gens qui ont participé à l'ICO, on est vraiment là dans acheter un ticket de loto qui peut faire un win for live puissance 10, mais qui a quand même énormément de chances de se casser la gueule. Quoi.
Ben oui, et puis si on compare ça aux IPO et donc aux valorisations en bourse, quand on voit des sociétés qui commencent à passer la barrière des 1 000 milliards de dollars, ouais, donc 1 000 fois plus,
ouais.
C'est des sociétés qui sont beaucoup plus matures, qui ont déjà un sacré marché, une marque, voilà, qui ont des assets tout à fait tangibles. Là, par rapport à ça, on est encore dans le spéculatif et dans le prospectif. Donc c'est particulièrement impressionnant, et en même temps, voilà, ça pose des questions sur la réalité du truc, quoi. Donc, puisqu'on en était dans les blockchains encore naissantes et un peu balbutiantes, parlons de EOS. Ça aussi, on en a parlé dans les prochains, dans les précédents épisodes du Proof of Cast. Pour un petit rappel des épisodes précédents, EOS c'est quoi ? C'est une blockchain, là encore, générique, ouverte, similaire dans ses objectifs à Ethereum, mais qui propose de résoudre notamment ses problèmes de vitesse et de scalabilité à travers un nouvel algorithme de consensus qu'on appelle Delegated Proof of Stake. Autrement dit, c'est de la preuve d'enjeu, mais déléguée. Et le principe, c'est donc que tous les utilisateurs peuvent participer à l'élection d'un petit nombre de validateurs, 21, si mes souvenirs sont bons, dans le cas d'EOS, et ce sont ces validateurs et ces validateurs uniquement qui peuvent créer des blocs. Alors forcément, vous sentez arriver l'inquiétude, c'est et la décentralisation dans tout ça. Ah oui, mais bon, on fait un compromis, on centralise un petit peu, et en échange, on récupère de la vitesse. Ouais, à ce compte-là, c'est assez facile. Mais bon, toujours est-il que EOS pense être le Ethereum killer le plus prometteur. Ils ont, pour appuyer leurs ambitions, levé des fonds à hauteur de plus de 4 milliards de dollars en un an dans une ICO. Donc, force est de constater qu'un certain nombre de personnes y croient. Pour autant, le lancement en juin dernier a été plus que houleux. On l'a couvert dans les épisodes précédents du Proof of Cast. Si vous vous souvenez, ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, deux jours après le lancement, il y a déjà eu des premiers couacs avec des arnaques qui ont poussé certains acteurs du réseau qui avaient été identifiés comme faisant partie de la gouvernance à prendre des décisions drastiques du genre bloquer les comptes en question. Sans vraiment consulter complètement les autres utilisateurs et sans s'assurer que les conséquences ne seraient pas trop graves pour l'ensemble du réseau. Évidemment, ça avait déclenché un tollé assez conséquent, et surtout, ça avait confirmé les craintes de certains par rapport à la centralisation relative du réseau EOS. Entre-temps, il y a eu plusieurs propositions qui ont visé à essayer de résoudre ce problème-là, mais là, il y a une semaine, quelque chose comme ça, donc le 25 septembre, donc même pas il y a quelques jours, on a appris que 4 des premiers employés de Block One, alors pour rappel, Block One c'est la société principale qui développe le logiciel qui fait tourner le réseau EOS, donc 4 des premiers employés de Block One, donc employés numéro 2 à 5 concrètement, ont démissionné, ont quitté Block One. Donc ça fait un petit peu les capitaines quittent le navire, d'autant que ces 4 personnes avaient un rôle assez important dans la société Block One. Ils étaient respectivement directeurs des opérations technologiques, directeurs produits technologiques, directeurs produits et directeurs infrastructure. Donc voilà, ils géraient quand même des aspects assez importants du logiciel. Alors Block One n'était pas encore une boîte gigantesque, faut pas déconner non plus, mais n'empêche que quand vous avez des employés comme ça qui contribuent depuis très longtemps, qui ont amené toutes leurs idées, leur intelligence dans un logiciel, évidemment ça aura des conséquences sur l'avenir d'EOS. Et puis surtout, on se demande pourquoi faire, pourquoi ils ont démissionné. Alors en l'occurrence, ils ont créé déjà une autre structure qui s'appelle Strongblock. On ne sait pas si ce sera le nom de la blockchain qui va en ressortir, puisqu'il sera, il s'agira probablement d'une autre technologie de type blockchain, en tout cas. Et la façon dont ils ont présenté les choses de manière assez vague pour l'instant, c'est de dire que là où EOS serait un super avion Boeing, eux, ils veulent faire une usine à Boeing. Donc à un niveau méta plus élevé, on va dire. Et on n'en sait pas plus. On ne sait pas exactement ce qu'ils veulent dire par là et dans quel sens ça va aller. Mais toujours est-il que voilà, ils ont quitté un petit peu le navire avec toutes les conséquences que ça peut avoir et aussi les questions que ça pose par rapport à la confiance qu'on peut accorder à cette technologie déjà un petit peu fragile.
Et pour l'anecdote, Block One est une société enregistrée dans justement un endroit pour bien recruter des développeurs qui sont les îles Caïmans.
Oui. évidemment, c'est pour ça que les gens vont créer des sociétés.
Les gens sont plus productifs aux îles Caïmans, je pense.
Clairement. Ils sont caïmans plus productifs.
Ouais. Donc on lève 4 milliards. Maintenant, la chaîne EOS est près d'atteindre le market cap de 8 milliards.
C'est incroyable, c'est juste hallucinant.
Mais bon.
Et pour beaucoup, parce qu'il y a des grands noms derrière, hein. Il y a Peter Thiel, un gros investisseur Silicon Valley. Il y a des filiales, si je me souviens bien, d'Andreessen Horowitz, un autre gros VC, qui ont participé au financement à des niveaux différents. Donc voilà, tout ça crée un petit peu un effet d'aubaine. Et bon, moi personnellement, vous le savez, hein, je suis un peu sceptique par rapport à EOS. J'ai un peu du mal à voir où ils vont avec tout ça. Et bon, affaire à suivre, comme d'habitude. Et tiens, une fois n'est pas coutume, on va revenir à une autre blockchain un petit peu plus connue, mais pour autant pas dénuée de bugs. En l'occurrence, on va parler de Bitcoin. Alors ici, je parle pas de Bitcoin Cash, de Bitcoin Gold ou d'un autre de ces nombreux forks, mais je parle bien de Bitcoin Core, puisque...
Le seul, le vrai, l'unique.
Voilà.
Celui qui sent, vous sentez ce parfum, ce Roland de slip sale qui traîne depuis 2010 dans un tiroir.
Dans un bol de Bolino froide.
Voilà, ça c'est le vrai Bitcoin. Celui qui est majoritairement stocké sur des disques durs, dans des décharges que les gens ont oubliées, sur des vieux PC qui traînent dans des greniers. C'est le vrai, le seul, l'unique Bitcoin. Alors quand on vous parle des blockchains, on vous parle des Ether machin et trucs et Bitcoin trucs, non. Exigez le vrai, exigez la marque, exigez Bitcoin.
Merci pour cette défense enflammée de Bitcoin. Et justement, là, le but de l'actualité, c'était aussi de montrer que il se passe encore des choses assez inquiétantes parfois dans Bitcoin. Là, ici, ce qui s'est passé, c'est que le 17 septembre, il y a une nouvelle version du logiciel. Enfin, pardon, il y a un bug qui a été découvert dans Bitcoin Core, donc, et qui a fait l'objet d'un fix très rapide, puisque en l'occurrence, en l'espace de 24 à 48 heures, ils ont sorti une nouvelle version, la version 0.16.3, qui résolvait ce bug. Et là où c'était un petit peu original, c'est qu'à partir du moment où ce bug a été découvert, il a été résolu un petit peu derrière des portes closes, c'est-à-dire que les développeurs ont un petit peu caché en quoi consistait le bug et comment il allait être résolu, etc., pour pas que ce soit trop évident, et surtout que quelqu'un utilise et exploite cette faille avant que la solution soit publiée. Et en l'occurrence, on a appris après coup qu'effectivement, c'était un bug assez gênant puisqu'il s'agissait d'une faille qui permettait une attaque de type déni de service, c'est-à-dire en gros pouvoir faire s'effondrer en tout cas quelques nœuds, si ce n'est une partie du réseau, en soumettant des transactions frauduleuses et en l'occurrence en faisant ce qu'on appelle du double spending, c'est-à-dire en soumettant une transaction invalide. Alors, c'était une attaque qui aurait été assez coûteuse si elle avait été menée à bien, puisqu'elle aurait coûté à son instigateur la coquette somme de 70 000 euros, hein, puisque c'est à peu près le montant de la prime de minage sur Bitcoin aujourd'hui. Donc c'est pas une attaque gratuite, mais voilà. Il se fait qu'elle n'a pas été utilisée, et heureusement.
Parce que 70 000 euros pour foutre la merde dans le réseau Bitcoin, je veux dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui seraient prêts à mettre 10 à 100 fois plus rien que pour foutre un petit peu le bordel.
Ça, c'est clair. Que d'accord. Si certains banquiers avaient entendu parler de cette faille, ils se seraient jetés dessus. Mais pour ça, ça aurait nécessité qu'ils la comprennent, qu'ils sachent actuellement, effectivement, de quoi ils... Non, ça, c'est pas possible.
Non, c'est
inenvisageable. Laisse-les acheter du Gulfware, enfin, du Tupperware. Donc voilà, la faille n'a donc pas été exploitée. Elle a été résolue très rapidement. Et heureusement, puisque donc... La faille avait été introduite par du code qui avait été produit en mars 2017, donc il y a un petit peu plus d'un an, un an et demi de ça, dans la version 0.14. Et donc, ça a illustré, en tout cas, le fait que même les développeurs Bitcoin qui sont assez communément considérés dans la communauté blockchain et crypto comme étant des développeurs très, très compétents et très intelligents qui, eux, pour le coup, savent de quoi ils parlent, et ben même eux, avec toutes les code reviews qu'il peut y avoir, avec tout le processus open source qu'il peut y avoir derrière, ils ne sont pas à l'abri de ce genre de bug qui peut avoir des conséquences assez graves.
C'est la première leçon de tout ingénieur logiciel, c'est qu'on n'est jamais à l'abri d'un bug et qu'on ne ship pas du code sans bug, on ship juste du code. Si on n'a pas trouvé de bug, c'est qu'on ne l'a pas assez testé. Donc, voilà. Et donc, il faut bien le rappeler, c'est qu'aujourd'hui, Bitcoin est en train de subir une phase intensive de tests. Alors là, justement, l'avantage de Bitcoin, c'est que c'est le logiciel open source où le bounty, le reward pour trouver un bug est le plus élevé. Donc, on peut mettre vraiment des sommes folles parce qu'il y a moyen de se faire beaucoup d'argent. Et jusqu'à présent, ça tient le coup. Ça veut dire que pour le moment, les développeurs sont plus intelligents que les attaquants.
Voilà, donc on c'est une course contre la montre, enfin c'est le chat et la souris, mais effectivement pour l'instant le chat gagne.
Et faut se poser la question du coup, c'est que si Bitcoin avec son expérience, avec sa stabilité, avec le peu de changements qu'ils ont, avec l'expérience des développeurs, trouve ce genre de bug, quand vous entendez la petite blockchain qui se lance et qui lève 2 milliards d'euros et qui est utilisée par 100 personnes à tout casser avec des développeurs qui viennent de lire le white paper Bitcoin en disant « Oh, je vais faire ma blockchain », posez-vous la question, le jour où il y aura des milliards à se faire, qui va trouver les failles critiques et qui va les corriger?
Voilà.
Et donc c'est une des positions en faveur des blockchains Bitcoin et alors peut-être Ethereum parce que il y a aussi une communauté très forte qui n'hésite pas à foutre des bugs mais à les corriger très vite. Mais donc c'est vraiment la question à se poser, de dire oui, ok, en dehors de Bitcoin et d'Ethereum, plus on s'écarte de la popularité, plus on va dans les choses un peu exotiques, plus le risque augmente de manière exponentielle.
Voilà. Donc par rapport à ce petit bug, quelques mesures pratiques, quelques petits conseils. Si vous êtes mineur vous-même, dépêchez-vous de faire une mise à jour si vous l'avez pas déjà faite, mais normalement vous devez l'avoir fait.
Mais ils ont peut-être pas le droit d'écouter ce podcast.
Pourquoi ?
Parce que c'est mineur non admis, non ?
Non, tout le monde, c'est ouvert à tout le monde.
Mais c'est vrai que c'est vous avez pas la vidéo. Non, c'est parce que pour le moment, en fait, Sébastien est en slip devant moi. Alors,
je me disais, d'accord, interdit aux mineurs. Ça y est, je viens de la comprendre. Interdit aux mineurs, d'accord. Ok. Donc, si vous êtes mineur, dépêchez-vous de ne plus être mineur. Non, pardon. De faire la mise à jour. Si vous êtes utilisateur, c'est bien de la faire quand même, même si elle est aussi critique. Disons que de toute façon, le bug n'était exploitable que par les mineurs. Par contre, si vous êtes développeur et que vous travaillez aussi avec une version de test de ce qu'on appelle le Lightning Network. Alors, pour rappel, le Lightning Network, c'est cette technologie de canaux d'État, de state channels. En gros, c'est l'idée de pouvoir sortir une partie des transactions de la blockchain principale et donc d'accélérer la vitesse des transactions. Si vous participez à ces développements-là, vous devriez carrément faire la mise à jour parce que ça a un impact aussi sur les arnaques possibles sur les state channels. À côté de ça, vous allez voir, c'est un thème qui revient. On aurait pu déjà en parler pour Tezos et tout ça. D'ailleurs, on en a parlé déjà pour Tezos. Si vous êtes développeur et que vous savez pas quoi faire de votre temps libre ou que vous voulez même vous faire payer, parce que chez Bitcoin aussi, il y a des primes, il y a des bounties et tout ça, encore une fois, votre contribution est plus que la bienvenue. Voilà. Donc ça, c'était pour le petit chapitre sur Bitcoin. Et bien sûr, on ne peut pas raisonnablement faire un épisode du Proof of Cast, surtout si près de Constantinople, sans parler d'Ethereum. Hein, évidemment.
Alors, peut-être juste avant de passer à Ethereum, juste sur Bitcoin, aussi dans la culture Bitcoin, il faut savoir, pour le moment, on commence à mettre en doute de plus en plus les vrais Bitcoin maximalistes. Alors, qu'est-ce que c'est un Bitcoin maximaliste ? C'est quelqu'un qui dit « je m'accroche à mes Bitcoins jusqu'au bout » parce que ça va, tout va disparaître, il ne restera plus que Bitcoin. Mais certains ont passé le cap où on ne sait plus trop différencier la parodie de la réalité, de nouveau, hein, le fameux cap, le Gorafi Point, où on se retrouve avec des gens qui disent « ouais, mais toute tentative de vous faire payer en Bitcoin est une arnaque » parce qu'il faut garder ses bitcoins. Justement, une monnaie doit vivre. Et donc, et en plus, les maximalistes tendent à s'accrocher à ça parce que le prix descend. Alors, on a des nouveaux maximalistes qui sont rentrés à 10 000 euros, à 15 000 euros, qui ont acheté leur bitcoin et qui maintenant s'accrochent de toute leur force. On espère pour eux que ça ne va pas trop descendre quand même. Mais bon, hein, n'oubliez pas, vous n'investissez que ce que vous pouvez perdre et considérez que c'est de l'argent perdu, qui peut peut-être rapporter gros et qui est plutôt un investissement sur le futur, un pari sur le futur, parce que même quand on croit à la technologie, le prix n'obéit pas à des règles
clairement pas,
rationnelles.
En tout cas pas à ce stade de son développement. Et quand bien même, enfin pour moi, c'est je range les investissements en crypto-monnaie comme du forex, c'est-à-dire que je comprends pas qu'on puisse espérer même faire une plus-value gigantesque sur ces trucs-là à long terme. C'est fait pour être utilisé, comme tu disais, c'est fait pour vivre avec, c'est fait pour être utilisé comme un véhicule de valeur et pas comme... Ouais, j'ai du mal avec cette notion de stockage de valeur, définitivement. Mais enfin bref, donc... Passons donc à Ethereum, comme je le disais. On en a parlé un petit peu, beaucoup même, sur les deux épisodes précédents, puisque c'est la grande saison des hard forks, et notamment du prochain hard fork sur Ethereum qui s'appelle donc Constantinople, qui devrait être normalement publié dans les semaines, voire les jours qui viennent. On devrait passer en test le 9 octobre, si mes souvenirs sont bons, et en production avant la fin octobre, puisqu'il y aura la conférence des développeurs début novembre. Donc, si vous vous souvenez bien, dans les épisodes précédents, on a parlé de la pression qu'il y avait sur, c'est justement le contenu de cette release, on va dire, Constantinople, au niveau des ASICs. Donc, les ASICs, on rappelle, ce sont ces ordinateurs, ces puces informatiques qui sont spécialisées dans le minage. Et jusqu'à récemment, il n'existait pas vraiment d'ASICs Ethereum parce que l'algorithme de minage utilisé par Ethereum est plus résistant, on va dire, aux ASICs que ne l'est celui de Bitcoin. Sur Bitcoin, les ASICs sont déjà rois et beaucoup de mineurs les utilisent. C'est quasiment plus possible de miner en faisant du profit avec des simples cartes graphiques. Sur Ethereum, c'était encore possible. Et là, maintenant, les fabricants d'ASICs se sont intéressés de près à Ethereum, à la faveur de l'augmentation de la valorisation, évidemment, et se sont mis à sortir des puces dédiées. Alors, qui sont moins intéressantes, enfin le facteur de profit d'intérêt par rapport à des mineurs sur carte graphique est moins impressionnant que sur Bitcoin, mais tout de même ça commence à inquiéter un petit peu les mineurs, ce qui a poussé certains mineurs à faire pression sur les développeurs pour dire dans ce hard fork Constantinople, on devrait aussi intégrer des mesures qui permettent de protéger les mineurs en carte graphique en excluant, enfin en rendant inintéressant en tout cas, les ASIC, c'est-à-dire ces puces dédiées. Et les développeurs ont dit, vous êtes gentils, mais votre code là pour changer l'algorithme de consensus, il est un peu récent, on n'a pas eu le temps de le tester, il y a quand même un processus pour cette release Constantinople, on peut pas rusher les choses, surtout quelque chose d'aussi important, on peut pas faire ça à la va-vite. Et donc ils étaient tombés plus ou moins sur un accord en disant, écoutez, on va de toute façon repousser la bombe de difficulté, donc c'est ce petit mécanisme qui fait que les mineurs ne mettent pas en danger la vitesse du réseau, on va dire. Du coup, comme on repousse la bombe de difficulté d'un an, on doit aussi diminuer la prime de minage de nouveau, donc la passer de 3 éthers à 2 éthers, donc ça c'est entériné, ce sera dans Constantinople. Et en échange, on va continuer à financer tous les efforts qui visent à implémenter ces mesures de protection du minage et donc de la décentralisation derrière. Et puis, on fera ce qu'il faut à l'avenir. Là, il se trouve qu'il y a quelques semaines de ça, il y a un autre fabricant, enfin un développeur d'ASICS qui a dit « Oui, mais moi, j'ai trouvé une technique encore plus efficace que Bitmain, donc les derniers qui avaient annoncé ça. Et on arrive avec ma technique, on pourrait être jusqu'à 6 fois plus performant encore que les ASICS Bitmain. » Et là, évidemment, les mineurs, ils ont eu une grosse goutte de sueur qui a commencé à perler sur leur front. Ils se sont dit « C'est pas possible, il faut vraiment qu'on se protège le plus rapidement possible. » Et donc la pression est répartie d'un cran sur les développeurs pour intégrer cette mise à jour dans Constantinople. Ce à quoi les développeurs ont répondu la même chose que la dernière fois. C'est-à-dire, vous êtes bien gentils, mais c'est trop rapide, on peut pas accélérer ce truc-là, il faut qu'on prenne le temps de le tester. Donc ce sera pas dans Constantinople. Par contre, on n'exclut pas l'idée de faire un nouveau hard fork, une nouvelle release, quelques temps après Constantinople, pour intégrer ces mesures-là et effectivement protéger le réseau contre la centralisation des ASICs.
On peut noter quand même que c'est quand même très nouveau que maintenant les développeurs d'Ethereum décident de tester le code avant de le shipper. Donc il y a quand même des changements qui
se
font.
C'est pas vrai. Quelle mauvaise langue. Oh là là, quelle mauvaise foi. Non, c'est pas vrai. Effectivement, Je pense que l'histoire a fait son œuvre dans le sens où il y a eu des releases précédentes qui ont été un peu rushées, ouais. Et du coup, il y a des mesures qui ont été mises en place, il y a des pratiques, il y a une culture qui a été mise en place qui incite à tester de manière plus profonde, surtout quand on s'attaque à l'algorithme de consensus. Ouais. Donc c'est plutôt sain, je trouve.
Il y a un peu la clé de voûte quand même de tout l'édifice. Donc il faut quand même le préciser. L'algorithme de consensus sur une blockchain, c'est ce qui fait la blockchain.
Voilà. Et donc, j'en reviens au même appel que j'ai déjà fait pour les autres blockchains. Si vous êtes développeur, notamment si vous êtes développeur et cryptographe et fanat de toutes ces choses-là, eh ben, vos contributions sont aussi les bienvenues pour aider notamment à implémenter ces mesures de protection des mineurs en carte graphique, parce que tout ça participe à la décentralisation du réseau, donc c'est très important. Et encore une fois, c'est pas uniquement du développement baba cool, open source, gratuit, etc. Il y a du développement avec du financement, avec des primes, avec des subsides, des subventions derrière. Donc, n'hésitez pas à participer, à aller voir comment votre contribution peut être utile. Et j'en termine avec la dernière news intéressante sur Ethereum. Enfin, c'est plus un ensemble de news, en fait, puisque en dehors de cette pression qu'il y a sur les développeurs pour implémenter ces protections pour les mineurs en carte graphique, il y a aussi un certain nombre de pressions par rapport à la scalabilité du réseau. Et le débat a été plus ou moins enclenché par un des développeurs de Parity, qui est un de ses clients, un de ses logiciels clients de la blockchain Ethereum, qui a dit en gros sur Twitter, ben écoutez, on est à capacité, là on fonctionne au taquet, donc s'il vous plaît, arrêtez de déployer de nouvelles applications sur Ethereum, pour l'instant le réseau ne peut pas les absorber. Là, évidemment, tollé général, ça, beaucoup de réactions, certaines réactions qui disent non, c'est même pas vrai, tu dis n'importe quoi, on peut encore en mettre, et d'autres qui disaient oui, c'est vrai qu'on n'est pas loin d'eux, mais il y a des solutions. Et ça, c'était déjà un peu plus constructif, et il y a notamment quelques solutions comme ça qui sont ressorties. Alors, évidemment, il y a des solutions à long terme, on en a déjà parlé. Il y a le sharding, c'est-à-dire la fragmentation de la blockchain, éviter de tout mettre chez tout le monde. Et puis, il y a aussi le proof of stake, la preuve d'enjeu, qui va aussi participer à améliorer la scalabilité du réseau. Mais tout ça, c'est des solutions plus à moyen, voire long terme, parce qu'elles nécessitent un gros effort de recherche et développement.
Et donc, quand on dit gros effort de recherche et développement, c'est vraiment de recherche dans le sens qu'on n'a aucune idée si ça pourrait fonctionner un jour. Donc, pour rappel, le proof of stake n'a pas encore été démontré comme étant une vraiment viable. Alors on part du postulat que ça pourrait marcher, on a des idées, mais il n'y a pas de démonstration formelle et certains cryptographes justement pensent que ça ne pourrait jamais marcher. Donc là, il y a encore un débat, mais on est vraiment au niveau théorique le plus élevé possible. Donc avant que ce niveau théorique décante, arrive à couche à des solutions théoriques et puis accouche à quelque chose de concret qu'on puisse implémenter, ça risque de prendre du temps.
C'est ça. Sur Ethereum, il y a des débuts d'implémentation qui existent. Hein. C'est ce qu'on appelle toute la famille de Casper, en gros, le gentil fantôme. Il y a pas mal de travail qui a été fait de ce côté-là, mais effectivement, on a encore pas démontré, en tout cas théoriquement et certainement pas empiriquement, c'est-à-dire sur le terrain à l'échelle, que ça pouvait aboutir à un compromis acceptable, parce que clairement on n'aboutira pas aux mêmes certitudes, je pense, que ce qu'on peut avoir avec de la preuve de travail comme Bitcoin, mais d'un autre côté Bitcoin a ses propres problèmes et donc il s'agit de faire les bons compromis et de trouver les bons trade-offs. Donc il y a tout ce travail, comme je le disais, à long terme pour améliorer la scalabilité d'Ethereum et un certain nombre d'initiatives qui essayeraient de proposer des solutions un petit peu plus court terme, un peu plus réalistes, pragmatiques, à apporter à tout ça. Alors, le premier, évidemment, à avoir poussé une solution pragmatique dans ce sens, c'est Vitalik Buterin lui-même, l'inventeur du concept initial d'Ethereum.
Oh, Saint-Vitalik.
Oh, Saint-Vitalik. Béni sois-tu.
Donne-nous dans tes tweets quotidiens la sagesse pour développer Ethereum.
C'est un peu ça. Et là, en l'occurrence, il a souligné l'importance de la technologie des ZK-SNARKs. Alors, je rappelle, ZK-SNARKs, ça veut dire quoi? ZK, c'est pour Zero Knowledge, c'est-à-dire c'est une technologie dont le but, à la base, est de permettre de faire des preuves sans connaissance.
Ouais, alors, qu'est-ce que c'est une preuve sans connaissance? Zero Knowledge, ça veut dire que je vais vous prouver que j'ai quelque chose. Alors, un exemple, typiquement, c'est, par exemple, on dit, l'exemple, c'est si vous avez une personne qui est... Il ne voit pas les couleurs. Comment daltonien devant vous, on va imaginer devant vous. Vous voulez lui prouver que vous avez deux balles, une balle verte et une balle rouge, et que les deux balles sont différentes. Vous pouvez, par un jeu, en lui montrant simplement, vous montrez une balle, puis vous mélangez les balles, et vous pouvez lui faire marquer une balle, et vous ne voyez pas, vous pouvez reconnaître la balle. Vous pouvez lui prouver que les balles sont bien différentes, qu'il y a bien une verte et une rouge, alors qu'elle n'a aucune manière, elle, d'identifier, de savoir quelle est cette connaissance. Alors ça, c'est vraiment une image très grossière, mais c'est pour vous montrer. L'idée, c'est de montrer, j'ai une information, je peux prouver que j'ai cette information,
sans révéler l'information
en question. Mais sans révéler l'information en question.
Voilà. Donc ça, c'est l'objectif initial du Zero Knowledge Proof. C'est avant tout une technologie de vie privée, de protection de la vie privée. Mais il se trouve qu'elle a des effets de bord carrément intéressants. Et notamment, Vitalik estimait sur Twitter que en implémentant cette technologie aussi pour faire ce qu'on appelle de l'agrégation de transactions, c'est-à-dire prouver des transactions par lot plutôt que individuellement, on arriverait à multiplier par 50 la bande passante, c'est-à-dire le nombre de transactions par seconde pour ce qui est des transactions ERC20, c'est-à-dire des transactions de token, et jusqu'à 24 pour les transactions en Ether. Donc c'est quand même des facteurs non négligeables, ça n'affecte pas toutes les transactions du réseau Ethereum, mais si on arrive déjà à optimiser celles-là qui sont clairement la plupart des transactions sur la blockchain Ethereum, ça serait déjà un gros gain. Donc ça, c'est une technologie qui est en cours d'implémentation. Il y a déjà les premiers prérequis qui ont été intégrés dans les hard forks successifs et qui est déjà utilisé aussi dans la blockchain Zcash, dont on a aussi déjà parlé. Et donc on sait comment le faire et ça va très probablement arriver avant encore le sharding et avant le proof of stake.
Ah oui, et donc Zcash, c'est vraiment la première blockchain, la première implémentation qui a utilisé justement le zero knowledge pour garantir l'anonymat des transactions. Alors il y a quand même Zcash a ses problèmes, bon, déjà de gouvernance, mais aussi le problème c'est que le zero knowledge, de nouveau, ben ça marche en gros, on arrive à faire des trucs, mais ça a ses limites parce que typiquement c'est généralement probabiliste dans les implémentations. Ben, par exemple, on va pour prouver que j'ai la clé d'une porte au milieu d'un couloir, la personne en face de moi va tirer à pile ou face, va me dire tu vas rentrer d'un côté du couloir, et puis va me faire sortir par le côté du couloir, mais il va tirer au hasard de quel côté je rentre, de quel côté je sors, et des trucs comme ça. Et ben du coup, en fait, il y a moyen de répondre correctement si on n'a pas il faut diminuer les probabilités qu'on puisse répondre correctement si on n'a pas l'information. Et donc on rentre dans déjà quelque chose qui est très complexe au niveau théorique, et ici on ne parle que d'en faire une brique de base pour quelque chose qui est encore plus complexe, qui sont les blockchains. Donc on est vraiment, alors ça c'est génial parce que là il y a du boulot, il y a du boulot pour les développeurs, mais il y a des boulots pour les chercheurs, il y a tout à faire, parce que aussi des fois les développeurs vont plus vite que les théoriciens, et donc ça c'est aussi un truc exceptionnel, il faut le dire, dans tout ce qui est blockchain, c'est que le monde académique suit, c'est-à-dire qu'on essaye de comprendre ce qui se passe. Voilà. Et ça, c'est absolument génial.
Et même, on assiste à un phénomène que j'avais pas remarqué spécialement avant, c'est qu'ici, bien des développeurs sont eux-mêmes théoriciens. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de faire et la recherche et le développement en lui-même. Il n'y a pas vraiment de distinction entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée dans le monde de la blockchain. Et des gens comme Vlad Zamfir, par exemple, ou même Vitalik Buterin eux-mêmes, ils continuent à publier des papiers scientifiques dans les journaux, dans les revues, etc., en même temps qu'ils développent les implémentations des algorithmes qu'ils proposent. Voilà. Donc c'est quand même assez bluffant.
Et alors on a des scientifiques qui font purement de la théorie, qui disent voilà, qui prouvent que ça ne peut pas marcher, et on a des développeurs qui développent des trucs et puis qui ça marche. Donc il faut voir où est le problème, mais c'est quand même une chouette période, c'est quand même excitant. Hein.
C'est quand même excitant, et je rappelle, si vous êtes développeur et ou mathématicien, ou les deux en même temps, eh ben vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors, au passage, donc ça c'est la solution que mettait en avant Vitalik, il y en a d'autres. Il y a une société qui s'appelle OpenST, qui elle propose une technologie qui s'appelle Mosaic, et dont l'objectif serait d'implémenter une sorte de state channel ou de sharding, mais à minima, on va dire, en s'appuyant au maximum sur la blockchain Ethereum telle qu'elle est, donc nécessiterait un minimum de modifications, et en même temps pourrait servir de bac à sable pour tester certaines des améliorations qu'on veut amener avec la preuve d'enjeu et avec le sharding, avec un minimum de modifications. Donc là aussi il y a des améliorations possibles à la scalabilité du réseau. Et le dernier exemple que je voulais citer, et encore une fois tous les liens seront dans le blog post lié à l'épisode, c'est celui d'un développeur tout seul, un petit développeur indépendant qui s'appelle Alexei Yakunov et qui a proposé une solution mais avec complètement un autre angle de réflexion. C'est-à-dire que lui, quand il pense scalabilité, bah, il travaille déjà sur le sharding et sur le proof of stake, mais il pense aussi à l'espace de stockage que prend une blockchain. Alors je vous rappelle, hein, quand vous rejoignez un réseau blockchain, vous devez d'abord télécharger tous les blocs et les valider. Depuis l'origine de la blockchain, ce qui aujourd'hui, avec un client comme le client Go Ethereum, peut vous bouffer jusqu'à 1 Tera de disque dur, voire un petit peu au-delà. Donc on commence tout doucement à être dans des capacités qui sont pas évidentes à maintenir, même sur des laptops modernes. Donc lui, il a pris les choses aussi de cet angle-là, tout simplement en optimisant l'implémentation du client Ethereum. Donc il a réécrit Go Ethereum, il appelle ça SuperGet, par opposition à Get. TurboGet, c'est le nom du truc. Et en gros, ce qu'il arrive à faire avec ça, en optimisant la façon dont la blockchain est stockée en local sur une machine, c'est à diviser l'espace de stockage nécessaire par 5. Donc d'un tera, il passe à 250 gigas. C'est quand même pas mal.
Mais du 200 coup, gigas, oui, pardon. Du coup, les théories informatiques voudraient dire que du coup, il faut un plus gros processeur et que ça met plus longtemps.
C'est ça. Donc là, du coup, ça prend plus longtemps. Là, aujourd'hui, tel que le client existe, ça prend 2 semaines pour se synchroniser avec la blockchain Ethereum, là où le client principal, le client Get, va mettre quelques heures à quelques jours maximum. Donc, il y a beaucoup plus de travail nécessaire pour structurer l'information d'une certaine manière, pour qu'elle prenne moins de place sur le disque. D'un autre côté, la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'elle est là, elle est aussi plus facilement accessible et donc demande moins de puissance de calcul pour faire tourner ce qu'on appelle un nœud complet, c'est-à-dire un nœud qui va valider toutes les transactions et tous les blocs qui passent par lui. Donc, tout ça pour illustrer le fait que ce petit développeur indépendant qui, au passage, avait des financements à la fois de la Fondation Ethereum, donc des subsides de la Fondation Ethereum, et des financements de Infura, qui est derrière ça, il y a Consensys, la grosse boîte de consulting blockchain. Donc, il avait des financements et à lui tout seul, il a déjà réussi à amener ce genre d'amélioration. Alors, en même temps, il reconnaît que c'est un peu mettre un pansement sur une plaie infectée, dans le sens où derrière, il faut quand même travailler sur les solutions à plus long terme, les solutions plus pérennes telles que le sharding et la preuve d'enjeu par exemple, ou les ZK-SNARKs. Donc il va continuer à travailler là-dessus, mais il pense qu'il y a aussi un gros travail d'optimisation à faire sur simplement la technologie qui existe déjà. Et je pense qu'on a fait le tour.
Alors, une toute petite dernière news pour terminer, c'est que l'UNICEF, que vous connaissez peut-être, donc l'organisme des Nations Unies pour la protection de l'enfance, c'est une organisation non gouvernementale, mais une des plus grosses, accepte désormais les dons en crypto-monnaie sur son site web. Alors, il suffit d'aller sur son site web et faire un don. Et alors, on a l'option de choisir parmi différentes crypto-monnaies. Alors, je te laisse, j'ai la page devant moi, Seb, et Seb ne la voit pas. Je te laisse deviner quelles sont les 9 crypto-monnaies avec lesquels on peut faire un don à l'UNICEF.
Bitcoin, sûr.
Ouais. Un, Bitcoin.
Ether.
Alors, Ether, il y a une petite subtilité, ils mettent Ethereum ou tout token ERC20.
Ah, on peut aussi contribuer en ERC20.
Ce qui est quand même...
Ouais, j'imagine les tokens tradables, parce qu'il faut quand même qu'ils puissent arriver à les revendre derrière.
Mais c'est écrit où token ERC20, donc il faudrait voir un peu ce qu'ils vont faire avec ces tokens. Hein. Mais je suppose que du coup, ils les gardent. Alors, ça fait 2, il en reste 7.
Monero.
Monero, oui.
Dash, peut-être.
Dash, tout à fait.
Voilà. Zcash.
Zcash, non.
Non, pas Zcash. Ah, zut, raté.
On est à 4 sur 9.
Est-ce qu'ils auront pris le risque d'aller dans les Bitcoin Cash, Bitcoin Gold et ces trucs-là?
Ah, Bitcoin Cash, oui. Bitcoin Cash, mais c'est déjà pas mal. Hein.
C'est déjà pas mal.
5.
Je dirais peut-être... Non, ils n'auraient pas mis de Léos quand même.
Ah si, ils ont mis Léos.
Les cochons. Les cochons.
6, encore 3.
Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre sinon? Non, je donne ma langue au chat.
Alors attends, il y en a un bon, un gros. Il y en a un de merde, mais un gros.
Ils ont quand même pas mis du Ripple dedans.
Et ils ont mis du Ripple.
Oh non.
Et ils ont même plus loin que le Ripple. Ils ont mis du Stellar.
Mais non.
Alors Stellar, qui est le fork de Ripple avec des développeurs initiaux de Ripple, qui en fait Stellar se calque assez fort sur Ripple finalement, et il reste le dernier, mais que moi j'aime beaucoup, hein, qui est le Litecoin.
Ah oui, Litecoin aussi. Tiens, j'avais pas pensé ça. Effectivement, ça fait du sens.
Qui est quand même un bon projet et qui a toujours été vraiment un Bitcoin bis, mais assumé en faisant les choses bien.
Plus rapide, moins cher en frais, etc.
Ouais. Et donc voilà. Donc pour résumer, on peut payer en Bitcoin, en Ethereum ou token ERC20, en Litecoin, en Ripple, en Bitcoin Cash, en Dash, en Monero, en EOS et en Stellar.
Magnifique. Impeccable.
Donc si vous avez des Stellar ou des Ripple qui traînent...
Vous savez quoi en faire, voilà. Plutôt que de spéculer, de les revendre comme des sagouins capitalistes que vous êtes.
Et moi en plus, ce que je dois dire, c'est que j'ai reçu le tout premier airdrop de Ripple, qui était de 40 000 Ripple à l'époque, et je l'ai revendu pour une bouchée de pain, parce qu'une fois que j'ai compris comment fonctionnait Ripple, mais c'est de la merde ce projet, ça n'a jamais fonctionné. Donc la grande leçon, c'est ne jamais mélanger investissement et technologie, parce que les merdes peuvent valoir beaucoup d'argent et des super bons projets peuvent rester très très bas pendant très longtemps. Donc voilà.
Le conseil du sage qui clôturera cette revue d'actualité. Donc on en arrive tout
conseil
doucement.
Conseil du sage, donc n'investiras jamais ce que tu ne peux pas perdre. Tu n'investiras jamais en te basant sur la technologie. Et toutes les semaines, tu écouteras le Proof of Cast.
Le Proof of Cast, tu écouteras.
Oui. Le Proof of Cast, tu écouteras. Oui, très bien. Merci.
Je sais pas pourquoi on se met à parler avec un accent asiatique pourri dès qu'on parle de...
Parce qu'on a l'impression que les Asiatiques sont plus sages que nous.
Donc voilà qui clôture...
Mais tu nous diras s'ils sont vraiment plus sages que nous.
Voilà qui clôture la revue d'actualité de cet épisode 11 du Proof of Cast. On va passer directement aux actualités de l'équipe. Ploum, qu'est-ce qui est dans ton actualité à toi en ce moment?
Eh bien, il vous reste 3 jours pour commander mon livre pour enfants Aristide, Les aventures d'Aristide, le lapin cosmonaute, sur Ulule. Sinon, vous allez sur mon blog, vous allez sur mon Twitter, vous allez sur Ulule, vous cherchez Aristide.
On mettra le lien de toute façon de la campagne.
Mais dépêchez-vous, parce que en fait, on est obligé d'en imprimer 500 exemplaires. On en a 290 ou 290 si vous êtes
en France,
si vous parlez pas correctement français. de vendus, donc c'est génial. La campagne est un gros succès, mais tout le reste va être stocké chez moi. Donc, s'il vous plaît. Allez, venez les commander, faites de cette campagne vraiment un méga succès. Alors Aristide, c'est quoi? C'est un lapin cosmonaute Aristide, c'est un lapin qui a un copain qui s'appelle Prosper, qui a un hamster et qui va un peu trop sur Internet. Et du coup, en allant un peu trop sur Internet, il se met dans la tête d'aller dans l'espace et de construire une fusée. Alors le pire, c'est qu'il va y arriver. Mais tout va pas évidemment se passer comme prévu. Alors je vous garde le suspense pour la fin.
Pas de spoil.
Mais au départ, c'était un livre que c'était un faux livre pour enfants que j'écrivais pour adultes parce que je trouvais ça rigolo. On s'est rendu compte, en fait, que ça marche aussi pour les enfants, hein. Parce qu'il faut pas prendre des enfants pour les cons, en fait. Ils savent très bien, tout. Mais donc, si vous voulez une petite histoire bien sympathique, c'est pas justement un livre pour enfants avec 3 phrases, le poisson rouge est dans la mare et compagnie. Il y a une vraie histoire avec des rebondissements, avec des choses qui se passent, avec des superbes illustrations, elles sont pas de moi, et donc ça doit être un livre magnifique. Donc achetez, consommez, consume, obey, etc.
Voilà, donc comme quoi notre Ploum National a plein de cordes à son arc, il écrit même des livres pour enfants, c'est magnifique. Et sinon, bien sûr, on peut te retrouver sur Twitter, sur Mastodon, sur tout ça.
Alors, surtout Twitter et Mastodon, parce que je suis en train de quitter les réseaux sociaux. Et alors, en primeur, je suis en train de préparer justement une déconnexion des réseaux sociaux. Les comptes vont commencer à exister, mais je vais tenter de diminuer mon usage personnel des réseaux sociaux. Alors, ce sera annoncé sur mon blog dans les semaines qui viennent. C'est une expérience que vous vivrez en direct sur mon blog. Et je reviendrai dans le Proof of Cast pour en parler.
Très bien.
Ça n'a rien à voir avec les cryptos. Mais en fait, de toute façon, hein, tant que vous êtes là, vous êtes en train d'écouter, hein, vous n'allez pas
appuyer. Vous êtes captif.
Vous n'allez pas appuyer sur stop juste parce que je parle. Alors.
Et donc, pour en savoir plus, vous allez sur son blog qui est sur ploum.net. Pour ma part, vous pouvez me retrouver aussi sur chainskills.com, sur le compte Twitter et Facebook du Proof of Cast et de Chainskills. Il y a aussi mon cours sur Udemy. Je rappelle, si vous êtes développeur et que vous voulez apprendre à développer des smart contracts sur Ethereum, c'est sur Udemy que ça se passe et vous pouvez utiliser le code Proof of Cast pour avoir le cours pour la modique somme très raisonnable et tout à fait abordable de 10 euros.
Et en Stellar, ça fait combien?
Je ne sais plus, ça doit faire quelques millions, je ne sais plus. Et à côté de ça, j'ai lancé, je vous en ai parlé dans le dernier épisode, je cherche toujours des volontaires pour m'aider à tester Crypto Series, qui est un smart contract et donc une application décentralisée de financement participatif des œuvres créatives récurrentes, tels que ce podcast par exemple. Donc si ça vous intéresse de m'aider à tester ça, vous pouvez m'envoyer un email à l'adresse qui est indiquée dans le blog post.
Ben moi ça m'intéresse comme créateur de série.
Voilà. C'est typiquement pour ce genre de cas d'utilisation.
Pour ceux qui veulent savoir, j'ai une série, mais c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai plus publié d'épisodes, mais en ligne, il s'appelle Printer, c'est un roman, mais c'est qui est publié par épisode. Il est sur mon blog, vous allez sur plume.net, vous cherchez Printer, il y a déjà 47 ou 48 épisodes publiés. Et voilà. Et
très alors, bien.
Et pour ceux, je précise aussi, ceux qui veulent commander le bouquin Aristide, si vous voulez le commander en crypto-monnaie, vous me contactez, vous m'envoyez un mail et on peut s'arranger. Ça passe pas sur Ouloulé,
voilà,
mais c'est pas grave.
C'est ce qui s'appelle,
il y aura un livre pour vous.
C'est ce qui s'appelle manger sa propre bouffe à chien, comme on dit en français dans le texte. Sur ce, voilà qui clôture notre épisode 11. L'épisode 12 sera diffusé le 13 octobre prochain. Merci Plume d'avoir participé à cet épisode.
Merci Seb.
Et à bientôt. À tous. Amusez-vous sur la blockchain, tout ça. Et on se retrouve donc le 13 octobre.
Ciao.
Merci, à bientôt.